Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons échangé la dernière fois sur les hérésies christologiques en montrant cette difficulté de bien parler du Christ, de ce qu'est le contenu de la foi. Et nous disions que dans un credo, celui qu'on appelle notre credo de Nicée-Constantinople, chaque mot compte. Je me souviens que tu disais que chaque dimanche, notre credo nous aide à rester droit dans la foi. C'est important de le revoir, de ne pas négliger cet acte de confesser ensemble la foi avec des mots qui ne sont pas des mots qu'on invente nous-mêmes, qui ne sont pas des mots qui relèvent de notre fantaisie, mais qui s'appuient sur une adhésion profonde au Christ et portée par toute la tradition d'une Église qui a réfléchi et qui continue de réfléchir avec tout ce que nos pères ont pu porter. En tout cas, nous avions commencé donc sur les hérésies christologiques, nous avons parlé du docétisme et de ceux qui parlaient du Christ qui aurait pris l'apparence d'un homme. Nous avons parlé de l'arianisme qui évoquait Arius qui estimait que le Christ et l'Esprit étaient créés, divinisés, mais créés. Donc des choses qui ne correspondent pas à notre foi chrétienne. J'ai envie de dire que là, nous allons partir pour un hérésie christologique numéro 2, parce que finalement, c'est un épisode assez long, ces histoires d'hérésie.
Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, car finalement, il faut comprendre qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école d'Alexandrie, d'un côté, qui était très centré par le verbe « fait chair », comme dit Jean 1,14, et le verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, en oubliant un peu que c'est une synecdoque, c'est-à-dire on dit la partie pour le tout. Quand le verbe se fait chair, il ne se fait pas seulement viande, il se fait homme en entier, âme et corps. Or, il y avait une trop grande tendance à faire coller, si vous voulez, le verbe directement à la chair, jusqu'à oublier qu'il y avait une âme spirituelle, par exemple, comme oubliera Apollinaire. Et de l'autre côté, il y avait une autre tendance qui était verbe, homme, logos, anthropos, c'est-à-dire le verbe assumait une humanité très libre, très autonome, avec déjà toute sa conscience, tout son esprit, et dans le fond, qui se référait au Logos, qui se référait à un Dieu invisible, mais qui avançait bon an, mal an, selon ses propres forces humaines. Et donc, ces deux tendances, celle d'Alexandrie plutôt unificatrice, et celle d'Antioche qui était plutôt à tendance, je dirais, de centrer les choses sur la distinction entre l'humain et le divin. Il y avait toute une école d'un contemporain de Paul de Samosate qui était Lucien, qui avait déclenché l'exégèse littérale et qui insistait beaucoup sur les faits et gestes de Jésus, alors qu'en Alexandrie, on était marqué par Philon d'Alexandrie et on utilisait beaucoup l'exégèse, je dirais, davantage allégorique. On comprenait que sous les mots, il y avait des dimensions cachées qui étaient révélées. Et il fallait descendre donc de l'écorce des mots jusqu'à la substantifique moelle pour arriver à découvrir la vérité. Et donc ces deux tendances se disputaient jusqu'au jour où, du côté donc plus au nord, à Constantinople, il y a eu un certain Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, qui était arrivé un peu tardivement dans la suite des grands sièges de l'Antiquité chrétienne, puisque l'empereur siégeait à Constantinople sur le Bosphore, entre l'Asie mineure et la Grèce, et il avait un rôle donc assez important, puisqu'il était proche de la cour, proche de l'empereur. Et voilà que Nestorius se mit un jour à condamner une expression qui était pourtant très ancienne, qu'on trouvait déjà dans les grandes litanies de l'Église, où la Vierge Marie était appelée Théotokos, mère de Dieu. Et Nestorius dit, mais ce terme est absolument impossible à conserver, parce que Dieu n'a pas de mère. Dieu est sans principe, il est arché anarchos, c'est-à-dire le principe sans principe, c'est le père, il ne peut pas avoir une mère qui l'engendre. Donc ce mot théotokos, qui veut dire littéralement dei genitrix, celle qui donne génération à Dieu, eh bien, ne va pas. Et il faut dire qu'elle est seulement Christotokos, elle est mère du Christ. Et il est parti en bataille contre cette expression. Heureusement, Cyril d'Alexandrie veillait, et on lui, sur le siège d'Alexandrie, et il comprit que là, il y avait le départ d'une grosse hérésie, qu'on oubliait que le sujet, le Verbe de Dieu, assumait la chair, mais restait ce qu'il était, et qu'on ne pouvait pas dissocier en Jésus-Christ son humanité et sa divinité. Ils étaient unis dans la même personne, et que c'était important de défendre donc le titre de Théotokos, en disant que Marie, certes, n'était pas mère de la divinité, mais mère de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et que ce titre, donc, était tout à fait valable, que la communication des idiomes devait se réaliser autour de la personne de Jésus-Christ, et donc le titre de Théotokos adressé à la Vierge Marie, mère de Dieu, eh bien, était un titre qui était un titre en fait christologique, c'est-à-dire qui ramenait à la vérité de la christologie chrétienne, et que Jésus avait assumé donc un vrai corps et une vraie âme. Au même moment, il y avait le fameux Apollinaire dont je parlais à l'instant, qui s'était imaginé que le Verbe avait pris la place de l'âme rationnelle de Jésus, donc Jésus était un peu comme un pantin, c'est-à-dire il y avait une disparition du nous, de l'esprit, le sommet de l'âme, et que d'un seul coup le Verbe jouait d'une manière instrumentale avec l'humanité de Jésus, mais pas une instrumentalité qui conserve vraiment l'identité de Jésus vrai homme. Et il a fallu donc, avec le concile de Chalcédoine, après le concile d'Éphèse, qui avait permis de rejeter l'erreur de Nestorius, de re-bien préciser les choses et de dire, attention, il n'y a pas seulement en notre Seigneur Jésus-Christ une identité, je dirais, divine, il y a aussi une identité consistante, humaine. C'était faire donner raison un peu à l'école d'Antioche, qui avait été un peu, je dirais, mis au banc par le concile d'Éphèse grâce à Cyril d'Alexandrie. Et donc il y a eu un rééquilibrage progressif pour finalement aboutir à cette très belle définition du concile de Chalcédoine. Il n'y a qu'une seule hypostase, c'est-à-dire une seule personne, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité, qui a vraiment assumé pleinement un corps et une âme. Et l'ancienne christologie des pères du temps de saint Irénée a servi toujours de modèle pour exprimer cela, un seul et le même. Qu'est-ce que ça veut dire, un seul et le même? C'est-à-dire un seul et le même Verbe à la fois en lui la divinité, parce qu'il est l'égal du Père, et a aussi en lui une humanité complète, parce qu'il est vraiment homme. Et ce un seul et le même qui servait à la christologie ancienne a été encore repris en 451, donc dans ce grand concile qui forme, si vous voulez, la clé de voûte maintenant de toute la christologie, même si des pans entiers d'église se sont séparés entre Éphèse et Chalcédoine. On pense à nos chers frères coptes, on pense aux Syriaques, on pense aux Arméniens, on pense aussi aux vieilles églises assyriennes orientales qui n'ont même pas été jusqu'au concile d'Éphèse et qui se sont arrêtées même au concile de Constantinople. Donc il y a eu des moments de distinction, de définition, mais aussi, hélas, de fracture, il faut bien se rendre compte. C'est-à-dire que des pans entiers, surtout périphériques, à l'œcuménisme, à la maison commune que représentait l'ensemble de la maison habitée des chrétiens, ceux qui étaient un peu marginaux ont été tentés de rester, de faire pause sur l'image, si l'on peut dire, sur les conciles successifs. Donc Constantinople, là, pratiquement, a été accepté par tous en disant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient tous les trois consubstantiels, même si le mot n'était pas dit pour le Saint-Esprit, on le disait pour le Fils, mais on donnait au Saint-Esprit tous les noms qui allaient dans le sens de reconnaître sa divinité. Et ça, toutes les églises les ont reconnus. Mais après, pour rentrer dans le concile d'Éphèse, vous avez malheureusement les Assyriens, qui étaient déjà de l'autre côté du limès romain, qui étaient du côté éloigné des Sassanides, de tous ces peuples qui étaient au-delà, en Asie mineure, au-delà du régime romain, qui se sont donc séparés de la chrétienté. Et puis, après le concile d'Éphèse, donc ce que je disais, Arméniens, Coptes, Égyptiens, c'est-à-dire, et puis Syriaques, ont voulu conserver une expression qu'on l'on croyait de Cyril d'Alexandrie ou même d'Athanase, être véridique, et on l'a opposé un peu à la vérité de l'humanité de Jésus en annonçant qu'il y avait une seule nature du Verbe incarné. Mia fusis tuteu logus et sarcomenu. Et cette expression donc est devenue comme une sorte de fer de lance par rapport à ces églises pour s'opposer à ceux qu'ils considéraient comme diaphysistes, c'est-à-dire annonçant deux natures en Jésus. Et cette volonté donc s'est marquée par une rupture de communion. Et il y a eu des épiscopats, donc parallèles. Et ça a été terrible pour l'Église, puisqu'il y avait un épiscopat copte, un épiscopat syriaque, un épiscopat en même temps arménien, sans compter la vieille Église assyrienne qui était restée de l'autre côté du limès. Et ces trois églises sont appelées les vieilles églises orientales. Heureusement, depuis Jean-Paul II et Paul VI, après le Concile Vatican II, un gros effort a été fait au niveau théologique. Les théologiens se sont rencontrés, il y a eu des accords christologiques, et l'on peut dire qu'au niveau christologique, il n'y a plus vraiment substantiellement de division entre ces vieilles églises et l'Église une sainte catholique apostolique. Donc on peut se réjouir de ce gros effort de l'œcuménisme qui a été un des grands fruits du Concile Vatican II.